Chapitre 9e. Monsieur de Saint-Hérem était un homme de 30 ans au plus, d'une charmante figure, de la tournure la plus élégante. Sa physionomie fine et spirituelle prenait parfois un caractère de souveraine impertinence, lorsque, par exemple, comme on va le voir, il s'adressait au commandant de la Miraudière. Mais à la vue de son ami d'enfance, monsieur de Saint-Hérem éprouva la joie la plus vive et serra cordialement Louis entre ses bras. Affectueuse étreinte à laquelle le jeune homme répondit avec entraînement, malgré les émotions diverses dont il était agité. Ce premier mouvement donné à la surprise et au plaisir de se revoir, les acteurs de cette scène, revenant à leurs premières pensées, reprirent à peu près la même physionomie qu'ils avaient lors de la soudaine apparition de Saint-Hérem. Louis continua de jeter des regards indignés sur l'usurier, pâle encore de colère, tandis que M. de Saint-Hérem lui disait d'un air moqueur « Ah ça, mon cher, avouez que je suis arrivé à temps. Il me semble que sans moi, mon ami Louis vous frottait d'importance. Osez porter la main sur moi, un ancien militaire ?» s'écria le commandant de la Miraudière en faisant un pas vers Louis. « Cela ne se passera pas ainsi, monsieur Richard. Comme vous voudrez, monsieur de la Miraudière. »« Monsieur de la Miraudière ?» fit Florestan de Saint-Hérem en partant d'un grand éclat de rire. « Comment, mon brave Louis, tu réponds à cette provocation ? Tu prends au sérieux ce gaillard-là ? Tu crois à son grade militaire, à sa croix, à ses campagnes, à ses duels, et à ce nom mirifique de la Miraudière qui devrait se prononcer de la Maraudière ? Assez de ces plaisanteries-là ! » dit le prétendu commandant en rougissant de dépit et s'adressant à M. de Saint-Hérem. « Toute raillerie à ses bornes, mon très cher. »« M. Jérôme Porquin, » dit Florestin, en se tournant vers lui. Il ajouta en lui montrant l'usurier, « Il s'appelle Jérôme Porquin. Son véritable nom est Porquin, et il me semble parfaitement choisi, ce nom. » Puis se tournant vers le prétendu commandant, Florestan ajouta d'un ton qui n'admettait pas de réplique, « Voilà la seconde fois que je suis obligé, monsieur Porquin, de vous défendre de m'appeler votre très cher. Moi, c'est différent. J'ai acheté et payé le droit de vous appeler mon cher, mon énormément cher, mon trop cher, monsieur Porquin. » car vous me coûtez bon, et m'avez furieusement friponné. « Monsieur, » s'écria l'usurier, « je ne souffrirai pas. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? D'où vient la farouche susceptibilité de M. Porquin ?» dit M. de Saint-Hérem, en regardant autour de lui d'un air étonné. « Que se passe-t-il donc ? Ah, j'y suis. C'est toi, mon brave Louis. C'est ta présence qui force trop cher M. Porquin à regimber, car il voit avec dépit que je démasque ses mensonges et ses vaniteuses prétentions. Or, pour en finir tout de suite, et vois bien s'il a l'effronterie de démentir. Je vais te dire ce que c'est que monsieur le commandant de la Mirandière. Il n'a jamais servi que dans l'administration des vivres de l'armée. C'est ainsi qu'il est allé jusqu'à Madrid, lors de la dernière guerre, et comme on a trouvé que cet honnête vivrier vivait trop aux dépens du gouvernement, on l'a prié d'aller vivre ailleurs. Il y est allé et s'est fait soi-disant homme d'affaires, en d'autres termes, prête-nom d'usurier, agioteur ou entremetteur de toutes sortes d'affaires véreuses. Ce ruban rouge qu'il porte est celui de l'éperon d'or, ordre du pape, qu'un saint homme a fait obtenir à cet autre saint homme pour le récompenser de son aide dans une spoliation effrontée. Enfin, monsieur de la Miraudière s'appelle Porquin. Il n'a eu aucun duel. D'abord parce qu'il est poltron comme un lièvre, et ensuite parce qu'il est si taré, qu'il sait bien qu'un galant homme ne doit répondre à ses provocations que par le mépris, et que s'il va jusqu'à l'insolence, on doit aller jusqu'au coup de bâton. « Quand vous avez besoin de moi, monsieur, » dit l'usurier d'une voix sourde, « vous ne me traitez pas ainsi. Quand j'ai besoin de vous, je vous paye, monsieur Porquin, et comme je sais vos friponneries, mon trop cher monsieur Porquin, je dois prémunir contre vous, monsieur Richard, dont j'ai l'honneur d'être l'ami. Vous voulez sans doute le dévorer comme une mouche, et vous avez déjà probablement commencé à ourdir autour de lui votre toile d'usurier. Rendez donc service aux gens, dit monsieur Porquin avec amertume, comme l'on vous en récompense. Je révèle à votre ami un secret de la plus haute importance pour lui, et je comprends maintenant, monsieur, dans quel but vous êtes venu à moi. Répondit sèchement Louis Richard. Je ne vous dois aucune gratitude pour le service que vous m'avez rendu. Si c'est un service, ajouta-t-il tristement. L'usurier n'entendait pas abandonner si facilement sa proie, et sachant oublier à propos les mortifications de M. Saint-Hérem venait de l'accabler, il reprit en s'adressant à lui avec autant d'aisance que s'il n'eût pas été brutalement démasqué. « Monsieur Louis Richard pourra vous dire, monsieur, les conditions de l'affaire que je lui proposais et dans quelles circonstances je lui faisais ses offres. Vous jugerez si mes prétentions étaient exorbitantes. Du reste, si je vous gêne dans votre entretien, messieurs, veuillez vous donner la peine de passer dans le salon. J'attendrai ici la décision de monsieur Richard, s'il veut prendre vos conseils à ce sujet. » « Voilà, mon trop cher monsieur Porquin, ce que vous avez dit de mieux jusqu'à présent, » reprit Florestan. Puis, prenant Louis par-dessous le bras, il l'emmena dans la pièce voisine et ajouta, en s'adressant à l'usurier, « En revenant, je vous dirai le sujet de ma visite, ou plutôt je vais vous le dire. Il me faut 200 louis pour ce soir. Tenez, examinez ces valeurs. » Et monsieur de Saint-Hérem, tirant de sa poche quelques papiers, les jeta de loin à l'usurier, et quittant le cabinet, entra dans la pièce voisine, accompagné de son ami. La brutalité hautaine avec laquelle M. de Saint-Hérem avait démasqué M. Porquin portait un nouveau coup à Louis Richard. Il pensait, avec une douleur amère, que c'était un pari misérable qu'il avait été sacrifié par Mariette. Aussi, une fois seul avec son ami, Louis, ne pouvant contenir davantage l'émotion qui l'oppressait, ni retenir ses larmes, dit d'une voix étouffée, en prenant entre les siennes les deux mains de M. de Saint-Hérem, « Ah, Florestan, je suis bien malheureux. Je m'en doute, mon pauvre Louis, car pour un garçon sage et laborieux comme toi, se mettre entre les griffes d'un drôle comme ce Porquin, c'est se donner au diable. Voyons, que t'est-il arrivé? Ta vie était modeste, mais presque pauvre. Aurais-tu fait quelques dettes, quelques folies? Ce qui peut te sembler énorme ne serait peut-être rien pour moi. J'ai demandé pour ce soir 200 louis à cet arabe. Je les aurai, j'en suis sûr. Veux-tu partager avec moi? Veux-tu tout? Je saurais par Dieu bien me retourner d'une autre façon. 200 louis, ça doit payer les dettes d'un clerc de notaire. Je ne dis pas cela pour t'humilier. Voyons, te faut-il davantage? Nous chercherons. Mais pour Dieu, ne t'adresse pas au Porquin, sinon tu es perdu. Je connais ce drôle. » Louis écoutait l'offre généreuse de M. de Saint-Hérem avec une si douce satisfaction qu'un moment il oublia ses chagrins. « Cher et bon Florestan, si tu savais combien cette preuve de ton amitié me fait du bien, me console. Tant mieux, tu acceptes alors ?»« Non. » »« Comment ? » ?»« Je n'ai pas besoin de tes bons services. Cet usurier que je ne connaissais pas m'a écrit et il m'offre par année plus d'argent que je n'en ai dépensé dans toute ma vie. »« Que dis-tu ? Il t'offre cela à toi ?» Ce coquin et l'usurier dont il est l'entremetteur n'avance jamais un sou sans les meilleures garanties. Ces gens-là n'escomptent ni l'honneur ni la probité, ni l'amour du travail. Or, mon pauvre Louis, je ne sache pas que tu possèdes d'autres patrimoines. Tu te trompes, Florestan. Mon père est 2 fois millionnaire. Ton père ? S'écria M. de Saint-Hérem stupéfait. Ton père ? Cet usurier a découvert, je ne sais comment, ce secret que j'ai toujours ignoré. Et il est venu t'offrir ses services? Je le reconnais là. Lui et ses pareils sont à la piste des fortunes cachées. Quand il les découvre, il propose aux fils de famille de manger leur blé en herbe. Vive Dieu, mon brave Louis, te voilà donc riche, car tu peux croire. Le Porquin, s'il te fait ses offres, c'est qu'il est parfaitement renseigné.
Je le crois, répondit tristement Louis.
De quel air accablé tu me dis cela, Louis? On croirait que tu viens de faire une sinistre découverte. Qu'as-tu donc? Et tes larmes de tout à l'heure, et ces mots? Je suis bien malheureux.
Toi, malheureux? Pourquoi?
Mon ami, ne te moque pas de moi. J'aime, et je suis trompé.
Un rival?
Et pour comble de douleur et de honte, ce rival?
Achève!
C'est cet homme, ce misérable usurier.
Porquin? Ce vieux drôle, lui, préféré à toi?
Non, non, c'est impossible.
Mais qui te fait supposer?
De vagues soupçons.
Et puis il m'a dit qu'on me le préférait.
Belle autorité. Il ment, j'en suis certain.
Florestan, il est riche. Celle que j'aimais, que j'aime encore, malgré moi, est pauvre. Elle endure depuis longtemps une cruelle misère.
Diable.
Elle a de plus à sa charge une parente infirme. Les offres de cet homme auront ébloui la malheureuse enfant, et comme tant d'autres, elle aura succombé par misère.
Maintenant, que veux-tu que me fasse la découverte d'une fortune inespérée? Mon seul désir eût été de la partager avec Mariette.
Écoute, Louis, je te connais. Tu dois avoir honorablement placé ton affection. Depuis un an, Mariette m'avait donné des preuves de l'attachement le plus sincère, lorsque hier, brusquement, une lettre de rupture. Une honnête fille qui t'a aimé pendant un an, pauvre comme tu l'étais, ne cède pas en un jour à un vieux fripon comme Porquin. Encore une fois, il doit mentir. Puis, appelant à haute voix l'homme d'affaires, à la grande surprise de Louis, M. de Saint-Hérem s'écria « Eh, monsieur le commandant de la maraudière !» L'usurier parut aussitôt. « Florestan, dit vivement Louis, que fais-tu ? Sois tranquille. » Et s'adressant à l'usurier, « Monsieur de la maraudière, il y a, je n'en doute pas, quelque confusion dans vos souvenirs au sujet d'une honnête jeune fille qui, selon vous, aurait été séduite par votre esprit, votre bonne grâce et vos excellentes manières. Vous grugez si honorablement. Voulez-vous me faire le plaisir, monsieur le commandant ? Le tout rehaussé d'un peu de cet argent, de me dire la vérité. Sinon, je sais ce que j'aurai à faire. » Le porquin, réfléchissant qu'il serait politique à lui de sacrifier une fantaisie, qu'il avait d'ailleurs peu de chances de satisfaire, à l'avantage d'avoir Louis Richard pour client, répondit « Je regrette beaucoup une mauvaise plaisanterie qui me paraît avoir contrarié, monsieur Richard. Tu vois bien, dit Florestan à son ami. « Mais monsieur le commandant m'expliquera-t-il comment lui est venue l'idée de ce qu'il appelle une mauvaise plaisanterie et que j'appellerai moi une indigne calomnie ?»« Rien de plus simple, monsieur. J'ai vu mademoiselle Mariette Moreau dans l'établissement où elle travaillait. Sa beauté m'a frappé. J'ai demandé son adresse. Je suis allé chez elle. Là, j'ai trouvé sa marraine et je lui ai tout bonnement proposé de... Assez !»« Monsieur, s'écria Louis avec indignation, assez !» « Permettez-moi seulement d'ajouter, monsieur mon futur client, reprit Porquin, que ladite marraine a refusé mes offres et que mademoiselle Mariette, survenant, m'a mis à peu près à la porte. Vous voyez, monsieur de Saint-Hérem, que je m'exécute franchement. Maintenant, j'espère que cet aveu sincère me vaudra la confiance de monsieur Richard et qu'il acceptera mes petits services. Quant à vous, monsieur de Saint-Hérem, ajouta l'usurier d'un air patelin, j'ai examiné les valeurs que vous m'avez remises. « Ce soir, je vous porterai vos 200 louis. Vous ne trouverez pas sans doute exagérées les conditions que j'ai proposées à M. Richard lorsque vous les connaîtrez. »« Je n'ai pas besoin d'argent, monsieur, » dit Louis. « Vous m'avez fait injure en me croyant capable d'escompter la mort de mon père. »« Mais, mon cher client, permettez... »« Bien, Florestan, sortons, » dit Louis à son ami en interrompant l'homme d'affaires. « Vous le voyez, mon trop cher monsieur Porquin, » dit Saint-Hérem en sortant avec son ami. « Vous le voyez, il y a encore d'honnêtes filles et d'honnêtes fils. Je ne vous dirai pas que cela vous serve d'exemple ou de leçon, vous êtes trop vieux pêcheur pour vous amender. Je ferai seulement des vœux sincères pour que ce double échec vous soit on ne peut plus désagréable. » « Ah, mon cher Florestan, » dit Louis lorsqu'il eut quitté la maison de l'usurier, « grâce à toi, j'ai l'âme moins oppressée. Je suis maintenant certain que Mariette ne s'est pas abaissée jusqu'à ce misérable. Mais elle n'en veut pas moins rompre avec moi. Elle te l'a donc dit ? Non, elle me l'a écrit, ou plutôt elle me l'a fait écrire. Comment ? Elle te l'a fait écrire. Tu vas me railler. La pauvre fille que j'aime ne sait ni lire ni écrire. Ah, que tu es heureux. Au moins, tu ne reçois pas des épîtres comme celles que m'adresse une petite gantière, que j'ai enlevée à un banquier qui, par jalousie ou lésinerie, l'avait enfoui dans un magasin. Je m'amuse à la mettre à la mode. Je jouis des éblouissements de cette pauvre fille. C'est si amusant de rendre les gens heureux. Seulement, je ne la rendrai jamais forte en grammaire. Ah, mon ami, quelle orthographe ! C'est d'une innocence antédiluvienne. Ève, notre mère, devait écrire ainsi. Mais si ta Mariette ne sait pas écrire, qui te dit que son secrétaire n'aura pas altéré, dénaturé sa pensée ? Dans quel but ? Je n'en sais rien. Mais pourquoi ne vas-tu pas t'expliquer avec elle ? Tu saurais décidément à quoi t'en tenir. » Elle m'a supplié, au nom de son repos, de son avenir, de ne pas chercher à la revoir. « Revois-la donc, au contraire, au nom de son avenir, maintenant que te voici millionnaire en perspective. » « Tu as raison, Florestan. Je la verrai, je vais la voir. Et si ce cruel mystère s'explique, si je la retrouve comme par le passé, tendre et dévouée, oh tiens, ce serait trop beau, pauvre enfant. » Sa vie s'est passée jusqu'ici dans la misère et dans le travail. Elle connaîtrait enfin le repos, le bien-être. Je n'en doute pas. Mon père consentirait.
Ah, mon Dieu, qu'as-tu donc ?
Ces émotions, ces événements m'ont fait oublier de te dire une chose qui va bien t'étonner.
Mon père voulait absolument me faire épouser ta cousine.
Quelle cousine ?
Mademoiselle Ramon.
Que dis-tu ?
Ignorant les projets de mon père, je suis allé à Dreux, d'où j'arrive. Là, j'ai vu Mademoiselle Ramon et, lors même que je ne serais pas amoureux de Mariette, la fille de ton oncle m'a paru si déplaisante que jamais.
Mon oncle n'est donc pas presque ruiné, comme il en fait courir le bruit depuis longues années ?
Dit Florestan en interrompant son ami.
Non, évidemment non, reprit-il, car si ton père veut te faire épouser ma cousine, c'est qu'il y trouve des avantages pour toi.
Nul doute, cette ruine prétendue était une feinte.
Mon père employait le même prétexte. C'est ainsi qu'il m'a toujours expliqué la pauvreté dans laquelle nous vivions.
Ah, mon oncle Ramon, je vous savais fâcheux, maussade, insupportable.
Mais je ne vous croyais pas capable de cette supériorité de conception.
Dès aujourd'hui, je vous vénère. Je n'hérite pas de vous, c'est égal. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a un oncle millionnaire.
On y pense dans les moments difficiles.
On se livre alors à toutes sortes d'hypothèses onclicides. On se laisse aller à de réjouissantes pensées d'apoplexie foudroyante. Et l'on regrette un peu le choléra, cette providence des héritiers, qui leur apparaît comme un bon génie, couleur de rose et d'or.
Sans aller aussi loin que toi, mon cher Florestan, et sans souhaiter la mort de personne, dit Louis en souriant, j'avoue que j'aimerais mieux voir, par la marche naturelle des choses, la fortune de ton oncle arriver entre tes mains qu'entre celle de son insupportable nièce. Tu saurais au moins jouir de tant de biens, et avec ses richesses, je suis sûr que tu ferais des dettes,
répondit Saint-Hérem avec majesté, en interrompant son ami.
Comment, Florestan, avec une si grande fortune ?
Je ferai des dettes, te dis-je.
Oui, forcément, je ferai des dettes.
Avec 2 ou 3 millions de biens ?
Avec 10, avec 20 millions, je ferai toujours des dettes.
Mon mystère est d'ailleurs celui de l'État. Plus la dette d'un pays est forte, plus elle prouve en faveur de son crédit. Or, qu'est-ce que le crédit ? La richesse. C'est élémentaire, sans compter qu'il y a là-dedans une autre question de philosophie morale.
Mais je t'expliquerai une autre fois mes idées philosophiques et financières. Cours chez Mariette et préviens-moi de tout ce qui t'arrivera.
Voici midi. J'ai promis à cette petite gantière que je m'amuse à émerveiller de lui faire essayer aujourd'hui un nouveau cheval de selle, le plus joli hack de Paris. Il me coûte un prix fou. Et elle m'a écrit ce matin pour me rappeler que tantôt je devais la conduire au bois de Boulogne.
À bois, ça fait au bois dans la pensée de cet ingénu.
Voilà pourtant où conduit l'abus de l'écriture.
Ta Mariette ne te fera jamais de ces tours-là.
Cours donc la retrouver, j'ai bonne espérance. Écris-moi, ou viens me voir, mais qu'aujourd'hui je sache ta joie ou ton chagrin.
Ta joie, je la partagerai.
Quant au chagrin, il faudra par Dieu bien que je te console.
Quoi qu'il arrive, mon cher Florestan, je te tiendrai au courant.
Adieu donc et à bientôt.
Mais j'y songe. Veux-tu que je te conduise chez Mariette ?
Non, merci, j'aime mieux aller à pied. En marchant, j'aurai le temps de songer à tant d'événements singuliers et au parti que je dois prendre envers mon père au sujet de cette révélation de fortune.
Adieu donc, mon cher Louis. Il est bien convenu qu'avant demain, je te verrai ou que j'aurai de tes nouvelles.
Ce disant, M. de Saint-Hérem monta dans un brougham, voiture du matin merveilleusement bien attelée qui l'attendait à la porte de l'usurier. Louis Richard se dirigea pédestrement vers la demeure de Mariette.